Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour, encore une fois, qu'il vient de nous donner, car c'est toujours par sa grâce que nous nous trouvons en ces lieux. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de la paix, c'est Dieu qui nous sauve à toutes circonstances de notre vie. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous évoquons ta présence au milieu de nous. Merci pour la louange que tu viens de recevoir de notre part, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous donnes pour écouter ta parole. Parle à tes enfants, Seigneur, afin que notre vie soit transformée. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer avec notre programme de la semaine que nous avons commencé le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi, et donc le cinquième jour de notre séminaire « Persécutés mais non abandonnés ». Et hier, comme rappel, nous avons été ici et nous avons parlé de la parole de Dieu. Nous avons su identifier les souffrances auxquelles nous sommes soumis, mais aussi nous avons parlé des trois types de chrétiens devant la souffrance. Et parmi les souffrances que nous avons identifiées, nous avons dit que c'est possible que tu sois chrétien, mais tu es dérangé par la stérilité. Et lorsque cet état nous arrive, lorsque ça nous arrive, facilement, nous oublions ce que nous sommes. Facilement, nous oublions qui nous sommes. Facilement, nous oublions en qui nous avons cru. Et nous oublions même que c'est Dieu-là qui nous a sauvés. C'est Dieu-là à qui nous avons cru. Le mot stérilité n'a pas de place dans sa vie. Nous oublions que celui qui a ordonné à Sarah d'avoir un enfant dans sa vieillesse. Nous oublions que celui qui a ordonné à Anne d'avoir l'enfant. Nous oublions que c'est Dieu-là qui a été même capable d'ordonner que l'enfant soit né dans le ventre ou soit conçu dans le ventre d'une femme vierge qui n'a pas connu d'homme. La suprématie de Dieu est au-delà de ce que nous pensons comme homme. Nous avons parlé de l'abandon familial. Quand nous sommes abandonnés, nous oublions facilement que le Seigneur nous dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je veux te recueillir. Mais le Seigneur sait que nous sommes là et nous devons nous confier en lui. Nous avons parlé des successions des faits malheureux dans la vie. Des successions des faits malheureux dans la vie, et quand ça nous arrive, souvent nous oublions quelle a été la part de Dieu dans la vie de Job. Quand Job a aussi reçu des problèmes, il a tout perdu jusqu'à ce que même son épouse lui a suggéré de dire « Est-ce que tu peux injurier Dieu afin qu'il te tue directement ?» Mais Job a été confiant à l'Éternel. Et c'est Job a confessé dans sa bouche que je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour. Quelle est cette confession que nous faisons lorsque nous sommes accablés par des difficultés dans la vie? Lorsque nous nous sentons persécutés dans notre être, quelles sont ces confessions que nous faisons afin que le Seigneur soit toujours glorifié dans notre vie? Et nous avons aussi parlé de trois types de chrétiens devant la souffrance. Quand la souffrance nous attaque, quand la souffrance arrive, quand des événements qui dépassent notre attendement nous arrivent, il y a des chrétiens qui rétrogradent. Ils peuvent être en mouvement, en activité dans l'Église pendant que les choses vont très bien. Mais quand ça va aller très mal, quand ça va tourner au vinaigre, il va disparaître. Il rentre là qu'il était à cause des difficultés de la vie. Nous avons parlé des chrétiens qui renoncent. Ce chrétien qui renonce, qui choisit rester dans le défaitisme. Et il dit, c'est la volonté de Dieu, nous ne pouvons rien faire dans ça. Et il reste sur place. Nous avons parlé des chrétiens qui s'élèvent. Et si nous avons pris l'exemple de David, qui s'est levé, il s'est élevé, il a regardé la difficulté en face. Il n'a pas voulu fuir cette difficulté. Il fallait affronter la difficulté. Mais affronter la difficulté avec le Seigneur. Si vous voulez affronter la difficulté seul, la difficulté va vous avaler. Mais quand vous allez avec le Seigneur, vous vous tournez vers le Seigneur, celui qui dit, amène ta main. Je vais la tenir jusqu'à ce que nous allons. Toi, tu vas mettre ton pied là que je mettrai aussi mon pied. Et nous allons rester vainqueurs. C'est ce type de chrétien que nous nous sommes dit que c'est là que le Seigneur nous demande. Le Seigneur veut que nous soyons des chrétiens qui s'élèvent pendant les moments de détresse. Nous devons fuir vers le Seigneur afin qu'il nous aide à marcher victorieusement contre les choses de ce monde qui nous accable. Notre problème dans la vie, c'est souvent nous faisons confiance aux hommes. La Bible dit qu'il soit maudit toute personne qui mettra sa confiance à l'homme. La Bible le dit. Et ça se montre facilement lorsque nous avons des problèmes et nous pensons que tel va nous aider. Peut-être qu'avant nous avons eu une expérience avec cette personne et nous pensons que la personne va nous aider, mais nous oublions que la personne change. La personne ne va plus nous aider comme elle nous avait aidé avant et nous restons déçus. Mais le Seigneur nous dit, heureux celui qui se confie en moi. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Normalement, nous devrions lire tous les psaumes 119. Mais comme c'est un long psaume, nous allons lire seulement le 9e vers jusqu'au 11e et le 105e vers. Ce sont des versets bibliques que nous lisons souvent. Ce sont des versets bibliques que nous lisons souvent. Ils nous sont familiers. Le psaume 119, le 9e vers jusqu'au 11e, mais tout ce que nous allons dire dans la prédication concerne tous les vers de ce chapitre. Le psaume 119, je lis le 9e vers. Le 9e vers dit ceci jusqu'au 11, « Comment le jeune homme rentrera-t-il pur sur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le 105e vers. Le 105e vers, nous le connaissons aussi car il nous est familier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, parole du Seigneur. Comme promis hier, nous avons dit que nous allons parler des attitudes à adopter vis-à-vis de la parole de Dieu pour la victoire dans nos combats. Nous sommes à perpétuel compas spirituel lorsque nous avons ou nous nous sommes engagés à suivre Christ. Et ce combat aura fin ou prendra fin lorsque nous irons dans notre tombe. À partir du jour où nous avons crié au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à notre tombe, nous serons à perpétuel combat spirituel. Et il y a des attitudes que nous devons adopter vis-à-vis de la parole de Dieu afin que nous nous rassurions que réellement, nous allons être fidèles à Dieu malgré toutes les circonstances. Aujourd'hui, David, c'est notre modèle. Demain, nous allons voir Daniel avec ses compagnons à Babylone il sera aussi notre modèle pour demain. Mais aujourd'hui, le modèle, c'est David. C'est David qui a chanté ce psaume 119. C'est le psaume le plus long, avec 176 vers. 176 vers. Et ce psaume traite directement du thème des Écritures. On peut facilement y trouver des termes comme les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu, la loi de Dieu, ordonnances de Dieu, les jugements de Dieu, paroles. On peut trouver facilement aussi des mots comme promesses. Et quand nous lisons très bien ce texte, il faut que vous ayez ce temps de le lire, du premier vers jusqu'au dernier vers. David est en train d'interagir avec la parole de Dieu. Et il le fait de cinq manières. Et ces cinq manières-là devraient être aussi notre paradigme ou notre modèle, nous qui sommes les croyants d'aujourd'hui. Et c'est ces cinq paroles-là, ces cinq attitudes dont nous allons parler ce soir. Et sans plus tarder, nous allons directement à notre première attitude. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous avons crié au Seigneur, nous devons avoir des attitudes qui nous permettront de rester victorieux et d'être sûr que réellement, malgré notre problème, malgré notre état qui nous menace, le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur sera toujours là. Et nous tirons tout ce que nous devons être, nous tirons tout ce que nous devons faire, nous tirons tout ce que nous devons penser de la parole de Dieu qui est la Bible. Les Saintes Écritures, c'est notre modèle, c'est notre guide, c'est notre voie à suivre partout dans notre vie. La première des choses qui peut nous aider, ou alors la première attitude que nous devons adopter vis-à-vis de la parole de Dieu pour que nous soyons victorieux sur tout ce qui peut être des persécutions ou des situations qui dépassent notre attentement, c'est faire confiance à la parole de Dieu. Faire confiance à la parole de Dieu. Si vous lisez ce psaume, parce que j'ai dit que nous devrions lire tous les psaumes, mais c'est très vaste, nous avons lu seulement 2 ou 3 vers. Mais si vous les lisez, vous allez constater qu'à maintes reprises, David exprime sa conviction que les Écritures sont vraies. Le fait que tu es convaincu d'abord que les Écritures qui sont là et qui nous ont été données sont vraies, tu vas croire en elles. Tu vas croire à ces Écritures. Avoir la confiance à la fiabilité de ces Écritures. Et c'est pourquoi même il déclare au 160e vers, le fondement de la parole, c'est la vérité. Il dit à Dieu, le fondement de ta parole, le fondement de tes écritures, c'est la vérité. C'est-à-dire, ces écritures ont comme fondement la vérité. Rien de mensonge ne peut jamais se retrouver dedans. Rien de mensonge ne peut jamais se retrouver dedans. Mais quelquefois, nous doutons de la parole de Dieu. Nous doutons de la parole de Dieu. Quelquefois, quand les choses tournent au vinaigre, quand ça ne va pas, ça va au-delà de nos forces et nous allons douter. Ça, c'est une première étape qui est très essentielle dans la vie d'une personne. Si vous êtes croyant et vous ne considérez pas la parole de Dieu comme étant pleinement et entièrement digne de confiance, alors toutes les autres étapes dont nous allons parler n'auront pas de place dans votre vie. La première chose, c'est d'avoir confiance à la parole de Dieu. Car à toutes circonstances, nous devons fuir vers le Seigneur. Et quand nous fuyons vers le Seigneur, c'est à partir de sa parole. À partir de sa parole. La deuxième attitude, c'est étudier la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous lisez le 73e vers, vous lisez le 153e vers, vous allez constater que David ne croit pas seulement à la parole. Un jour, je vous avais dit ici qu'il est possible qu'on croit, mais vous n'avez pas confiance
Vous pouvez croire, vous avez la croyance, mais vous n'avez pas la foi. La foi, c'est une dimension qui va au-delà. Que le Seigneur, il est capable. Et je vous avais dit que la Bible dit que même les démons croient que Dieu existe. Mais est-ce que les démons là ont la foi que Dieu peut les aider? Ils n'en ont pas. Mais toi, quand tu viens de croire, au-delà de la croyance, il faut qu'il y ait la foi. Alors, au-delà de la croyance, il y a la foi. Et la foi va venir lorsque tu vas te mettre à l'application de la lecture de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? David ne croit pas seulement à la parole. Au-delà d'être croyant à la parole, c'est un étudiant de la parole. C'est un apprenti de la parole. Il fait la recherche de la parole. Et il cherche même à mémoriser la parole. Et il la médite régulièrement dans sa vie. Vous savez, nous avons souvent toujours des problèmes. Et nous ne savons pas réagir aux situations qui nous arrivent parce que nous ne sommes pas familiers à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas familiers aux versets bibliques. Nous ne sommes pas familiers. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ, quand il a parlé au diable dans le désert, il n'avait pas de Bible écrite. Il se référait, il disait, il est écrit. Il a dit trois fois en disant, il est écrit, il est écrit. Il n'avait pas de Bible sur lui. Oui, c'est possible qu'on te dise, tu dois avoir ta Bible. Mais à chaque instant, tu ne l'auras pas entre tes mains. Et tu ne connais jamais le moment où tu en auras besoin pour faire face à une situation qui va t'arriver. C'est pourquoi c'est très important que tu puisses être un étudiant de la Bible. Cette étape, naturellement, découle de la première. Si tu as la confiance à la parole de Dieu, alors tu auras aussi la soif de la lire. Parce que tu as la confiance à cette parole, tu auras aussi la soif de la lire. Si réellement la parole de Dieu, c'est la vérité, ça veut dire que nous devons nous consacrer à l'étudier. De manière diligente, nous devons l'embrasser avec notre esprit. Alors, chaque fois que nous disons qu'il y a étude biblique ici à Gomaville, les gens ne dépassent jamais 15 sur 1500 personnes. Peut-être que nous sommes là ici, je ne sais pas si on peut être à combien, c'est une soixantaine telle que je vois. Mais, qu'est-ce qui nous arrive souvent de ne pas venir faire l'étude biblique? Parce que nous avons confiance. Et nous avons confiance et foi à nos travaux. Chacun de nous, si on le demande pourquoi il n'arrive pas souvent, il va tout simplement dire « Kazizisha kwa zamingi ». Nous avons confiance à ces travaux-là. Ce sont ces travaux-là, nous pensons que qui nous aident à continuer à vivre. Mais possiblement, nous pouvons mourir et nous laissons ces travaux-là. Mais le Seigneur-là, à qui nous avons eu confiance, il va nous recueillir même quand nous serons morts. Ça veut dire quoi? Nous devons aussi donner une place prépondérante dans notre vie de la lecture de la parole de Dieu. Les gens viennent souvent ici, ils disent, ils arrivent à l'église quand c'est le processus du mariage. Ils cherchent des femmes, elles cherchent des hommes et on arrive au bureau. Je n'ai jamais vu la personne. Je demande, mais comment toi tu n'es pas ici? Je n'ai jamais vu depuis que je suis ici. La personne dit, bon, vous voyez, vous savez, basse, basse. On accuse toujours les activités. Ces gens qui arrivent toujours ici, ils sont aussi occupés par leurs activités. Seulement, ils savent quel moment je peux donner pour la lecture de la parole de Dieu. Nous avons du mal à affronter le diable. D'ailleurs, même une petite tentation arrive parce que nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu. Nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu. La troisième attitude que nous devons adopter, c'est utiliser la parole de Dieu. Il y a déjà la confiance à la parole de Dieu. Nous connaissons qu'elle est vraie. Aussi parce que nous connaissons qu'elle est vraie, maintenant nous devons l'étudier afin que nous puissions découvrir cette vérité qui est en l'intérieur. Et après l'avoir découverte, nous allons faire quoi? Nous allons utiliser cette parole. Nous allons utiliser cette parole. Croire et connaître la parole, c'est une chose. Mais aussi se confier maintenant en elle et la considérer comme notre guide durant les difficultés. Qu'est-ce que nous faisons pendant les difficultés? Est-ce que nous utilisons la parole de Dieu afin qu'elle nous serve de guide, afin qu'elle nous serve d'encouragement et d'espoir dans la vie? Il y a des choses dans la Bible qui sont l'espérance dans notre vie. Quand nous la lisons, nous l'utilisons. Nous qui étions déjà assis dans l'enceinte, mais après avoir lu, le Seigneur nous donne la force. Nous utilisons cette parole de Dieu afin que nous ayons la force. Si David a dit, s'il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, David savait que le chemin est très long. Nous chantons souvent ici, je ne sais pas si nous nous souvenons souvent ou si nous comprenons souvent ce que nous chantons. Nous chantons souvent un cantique ici. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Est-ce que vous avez souvent médité sur ce couplet-là, cette strophe-là? Et après ça, maintenant vous dites, jusqu'au bout, je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. Est-ce que nous méditons ça souvent? Le chemin par lequel nous passons pour suivre le Seigneur est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. Quelquefois, tu peux te retrouver seul. Difficile et ténébreux. David a compris cela, c'est pourquoi il a dit, je ne peux pas m'hasarder dans ce chemin si je n'ai pas la parole de Dieu comme lampe à mes pieds. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de marcher dans ce chemin solitaire, dans ce chemin difficile, dans ce chemin qui est ténébreux, la parole de Dieu. Nous devons l'utiliser, mais tu ne vas pas utiliser ce dont tu n'as pas confiance. À quoi tu n'as pas confiance? Tu ne vas pas utiliser ce que tu n'as pas étudié. C'est pourquoi c'est toujours important d'avoir d'abord la confiance, étudier et l'utiliser dans la vie pour que tu ailles de l'avant. Quatrième attitude pour affronter les difficultés de la vie, afin que nous sachions que le Seigneur est toujours là, il ne nous abandonnera jamais, c'est se réjouir de la parole de Dieu. Utiliser la parole de Dieu. La quatrième attitude, se réjouir de la parole de Dieu. David compare la parole de Dieu. Là, nous sommes dans les psaumes 119. C'est là où il dit, il a confiance à la parole de Dieu, il l'étudie et l'utilise, et il a de l'affection pour cette parole-là. Il a une profonde affinité émotionnelle à cet égard-là. C'est pourquoi au 159e vers, il peut dire « J'aime la parole de Dieu ». Au 162e vers, il peut dire « Je me réjouis de la parole de Dieu ». Au 18e vers, il peut dire « La parole de Dieu est merveilleuse ». Et au 72e vers, il peut dire « La parole de Dieu est meilleure que 1000 objets d'or et d'argent. » Au 103e, il va vous dire que la parole de Dieu est douce plus que le miel à sa bouche. Nos problèmes, c'est que nous qui sommes des chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes déjà mal habitués parce que nous avons scindé la Bible. Il y a dans la Bible des versets pour lesquels nous allons dire « Amen ». Et les autres, nous allons nous taire. Je me souviens que souvent, je peux mettre quelque chose sur mon statut. Si je mets un verset qui dit, le Seigneur te connaît, il connaît tes difficultés et il sait qu'il va te bénir. J'ai toujours eu beaucoup de réactions. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Amen, pasteur. Le verset suivant, sanctifiez-vous, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. On ne dit pas Amen. On ne dit pas Amen. Et c'est ça notre problème. Nous devons savoir que la parole de Dieu est Amen en tout, de Genèse à Apocalypse. Parce que le Seigneur qui est là, lui, tout ce qui se passe dans sa parole est vrai, véridique. Que ce soit pour les jugements, c'est bon pour Dieu. C'est Dieu qui est là, celui qui, oui, il nous bénit. Il nous bénit, c'est vrai. Mais quand il s'agit du jugement, il nous juge aussi. Ça, c'est bon aussi pour lui. Quand il s'agira de nous interpeller, il va nous interpeller, c'est bon pour lui. C'est Dieu ici est capable de tuer, il est capable de massacrer parce que les gens sont partis loin de sa volonté. Et c'est vrai aussi, c'est bon pour lui. Si on vous dit, vous allez mourir parce que vous n'avez pas cru en Seigneur, il faut dire Amen. Amen signifie, c'est vrai. En vérité, cette parole est certaine. Donc, cette parole ne peut pas changer, c'est comme ça qu'elle est. Alors, qu'elle soit une parole qui vous bénit, ou peut-être une parole, bon, qui ne vous bénit pas, je ne sais pas, mais toutes les paroles qui sont dans la Bible doivent vous bénir. Parce que vous devez y trouver toujours votre compte et votre part. Que ce soit une parole de jugement par rapport à votre comportement, vous devez dire Amen à cette parole parce qu'elle vient de vous interpeller afin que vous puissiez régler encore une fois votre vie. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir de la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous réjouir d'une partie de la parole de Dieu. Réjouissons-nous de la parole de Dieu d'une manière complète. Tout chrétien qui aime Dieu, qui marche avec Dieu, comme je l'ai dit au début, il y a des termes préceptes, ordonnances, lois. Nous devons suivre la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est sa parole qui est déjà écrite dans ce que nous appelons la Bible. Nous devons la suivre. Nous n'allons pas faire la loi de Dieu, nous n'allons pas nous soumettre à la loi de Dieu pour que nous trouvions le salut, mais nous allons recevoir le salut en Jésus-Christ et après nous allons suivre la loi de Dieu. Quand Dieu nous sauve, il ne nous laisse pas comme ça, dans la liberté, qui ne dit pas son nom. Nous ne devons pas être des gens qui exagèrent dans la liberté. Je l'avais déjà dit ici un jour, si je me souviens bien, c'est que il n'y a jamais eu de liberté, à vrai dire, il n'y a jamais eu de liberté. Tu as été esclave du diable après avoir cru. La liberté chrétienne signifie que tu es esclave de Dieu. Tu vas suivre ce que le Seigneur va te dire parce qu'il y a une ligne de conduite qu'il a déjà mise là afin que toi, comme tu viens de le croire en lui, tu dois t'inscrire dans cette ligne de conduite. Et donc tu dois savoir que tu n'es pas aussi libre de te comporter comme les autres. Alors, quelle sorte de liberté? Pendant que les autres sont en train de boire de leur cassixi, les autres sont en train de faire ceci ou cela, mais toi, tu dis, moi, je ne fais pas ça. Toi-même, la loi de Dieu qui est à toi te limite. Et c'est très important dans notre vie. C'est pourquoi même, là où les autres sont en train de se taper beaucoup d'argent dans la malignité, toi, tu acceptes de souffrir pour la gloire de Dieu. La cinquième et la dernière attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu pour que nous soyons victorieux dans notre vie de chaque jour, c'est obéir à la parole de Dieu. J'ai dit confiance à la parole, étudier la parole, utiliser la parole. Ces quatre caractéristiques qui précèdent doivent nous conduire à la dernière, qui est obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit ceci, David. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas faire quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Si vous avez un dictionnaire, vous pouvez l'ouvrir, vous voyez le verbe serrer. Si ça veut dire quoi? Je serre ta parole dans mon cœur. Ça veut dire ta parole arrive dans mon cœur de manière que autre chose ne peut jamais y trouver encore de place. Je m'attache à ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que si toi, tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu vas pécher contre lui. Tu vas pécher contre lui. Ce qui est vrai est que nous sommes soumis à des différentes tentations. Là où nous travaillons, on nous propose beaucoup de choses. Est-ce que nous avons le temps de penser que ce que nous allons faire, c'est obéir à la parole de Dieu? Ou peut-être, nous avons peur que les gens nous disent, « Bon, oui, ouko yuma tu, hauta endeleaka, tu ne seras jamais riche. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et Jésus, celui que nous suivons, celui à qui nous avons cru, il a aussi affronté des difficultés. Et en affrontant des difficultés, son seul refuge, c'était aller prier le Seigneur. Et dire, « Seigneur, tu connais encore cette manière de me traiter. » Même pendant qu'il était en train d'être traité très mal, il a eu le temps de dire, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Combien de personnes se sont déjà attaquées à vous, en parole, en acte, je ne sais pas à quoi? Quelle est la réaction que vous leur avez réservée? Est-ce que c'était de la Bible? Vous aviez dit, « Seigneur, tu avais dit. » Ou bien vous allez dire, « Il va voir de quel bois je me réchauffe. » Pour montrer ce que vous êtes. Le Seigneur nous amène à incarner ces cinq caractéristiques comme lui-même les a incarnées. Jésus a fait confiance à la parole de son Père. Jésus a étudié la parole de son Père. Jésus a utilisé la parole de son Père. Jésus s'est réjoui de la parole de son Père et il a obéi. C'est à ce Jésus-là que nous avons cru. Quand David dit, je dois maintenir mon sentier avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire et qu'est-ce qu'il nous donne comme enseignement? C'est là maintenant qu'il a posé la question, comment un jeune homme peut-il rentrer pur sur sentier? Parce que dans ce monde ici, il y a des influences immorales qui caractérisent nos milieux. Qui nous entoure? Personne ne peut nous dire qu'il vit au paradis ici sur terre. Il y a toujours des influences immorales qui vont venir. Et à partir de notre réaction, le monde saura qui nous sommes. Le monde saura qui nous sommes. Voici comment, je vais seulement les lire sans commentaire pour que je finisse. Il y a 8 manières de le faire. 8 manières qui peuvent nous permettre de marcher victorieusement contre le diable, mais aussi vaincre les tentations qui nous arrivent et toutes sortes de persécutions qui peuvent venir. Les événements qui sont au-delà de notre force. David, dans le psaume 119, il nous donne 8 choses. La première chose, nous pouvons réussir en prenant la décision irréversible d'être loyal envers la parole écrite de Dieu pour les restants de nos jours. Quand nous disons les restants de nos jours, nous avons combien de jours? Qui sait combien de jours lui reste? Si c'est un jour, si c'est 2 heures qui te restent, si c'est 1 année, si c'est 5 ans, si c'est autant d'années, David nous dit, nous devons prendre une décision irréversible d'être loyal envers la parole de Dieu. Quand tu as une décision irréversible à la parole de Dieu, cette parole va t'amener à la victoire. Même pendant des moments un peu difficiles, toi-même, tu vas savoir que le Seigneur a été avec moi. La deuxième chose, c'est la vie de prière. En cherchant l'Éternel dans la prière. Nous ne pouvons pas rester vainqueurs face aux adversités de ce monde sans être en collaboration avec les commandants des opérations. Nous sommes en guerre perpétuelle contre le diable, contre les principautés, contre toute autre chose qui part à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous sommes toujours à guerre. La Bible dit en Éphésiens que nous n'avons pas de combat de chair et en os, mais notre combat c'est spirituel. Et le comble c'est que toi qui es chrétien, tu ne vois pas l'ennemi parce que c'est spirituel, mais cet ennemi-là te voit. Celui contre qui nous combattons, le diable, lui il nous voit, mais nous ne le voyons pas. Et c'est très difficile. C'est pourquoi d'ailleurs Éphésiens nous a dit, nous devons avoir les armes pour lutter, les armes spirituelles. Et ici maintenant, David nous enseigne, nous devons toujours être en collaboration. Nous sommes sur le champ de bataille, nous sommes à la première ligne de front. Le commandant des opérations, c'est Jésus. Notre Motorola, c'est la prière. Si tu n'utilises pas la Motorola, alors tu ne sauras pas suivre les préceptes du commandant des opérations. Et là, il faut lire la parole de Dieu qui va te permettre, qui va te donner les tactiques qui te rendront victorieux. La troisième chose, c'est en mémorisant la parole de Dieu. Je l'avais déjà dit. Confiance à la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu va nous permettre de mémoriser la parole de Dieu. Quand j'étais en train d'enseigner les catéchumènes, ceux qui vont se faire baptiser, je leur ai dit, il y a un verset par exemple dans la Bible qui dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est en 1 Corinthiens 6, 12. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu comme il faut, il est possible que quelqu'un, le diable, vienne vous dire, cette fois-ci, même la parole de Dieu dit que tout m'est permis. Et il s'arrête là. Mais toi, tu ne connais pas maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Il faut maintenant lui dire, oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Pour connaître ça, tu n'auras pas besoin d'ouvrir la Bible. Non, tu dois maintenant la voir dans ta tête, afin que tu fasses front contre le tentateur qui est devant toi. Quelquefois, nous chassons les gens qui viennent nous tenter. Nous les chassons par force. Parce que souvent, nous pensons que c'est une guerre physique. Au-delà d'être une guerre physique, c'est d'abord une guerre spirituelle. Quand quelqu'un vient te proposer le mal, c'est d'abord une guerre spirituelle. Il faut te rassurer que tu as des armes qui vont te permettre de continuer à affronter cette personne-là. Mais nous avons souvent les problèmes. Je donne souvent l'exemple des témoins de Jéhovah. Quand ils arrivent chez nous, quels sont les versets bibliques avec lesquels nous les convaincons? Ils viennent avec des versets bibliques. Ils vous lisent. Et toi, parce que tu n'as pas de versets bibliques, tu n'as qu'à les chasser. Tu dis tout simplement, « Moto kaya bamrane sombo. » Et il y a des gens, quand vous voyez les témoins de Jéhovah en train de venir, vous commencez déjà à demander aux affaires, « Allez fermer la porte, que ces gens-là n'entrent pas ici. » Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la parole. Vous avez peur. Vous n'avez pas la parole. Ayez la parole de Dieu qui va vous permettre de marcher victorieusement contre le diable. Quatrième chose, c'est en recherchant la direction de Dieu. Toutes ces choses, c'est dans la Bible. Nous ne saurons jamais la direction de Dieu sans lire la Bible. C'est la parole de Dieu qui nous guide. C'est la parole qui nous donne l'espoir en tout. C'est la parole de Dieu qui nous rassure que réellement nous avons pris un bel engagement. C'est la parole de Dieu. Et donc, dans la parole de Dieu, nous trouvons la direction de Dieu. La cinquième chose, c'est en prenant position à faveur de la vérité divine. Prenez la position en faveur de la vérité divine. Partout où vous êtes, quelles sont les activités que vous faites? Quels sont les sujets des débats, les sujets qui animent les débats que vous faites à Biréré, à l'école, à l'université? Et quelle est la vérité dans ces débats? Et vous prenez la position en faveur de cette vérité. Avant-hier, nous avons dit que les gens se sentent bien lorsqu'ils expliquent qu'ils connaissent déjà beaucoup de choses dans ce monde. Mais ils se sentent très mal de montrer aux gens qu'eux, ils sont chrétiens et qu'ils doivent prendre une position spécifique. Prenez la position en faveur de la vérité. Si vous prenez la position en faveur de la vérité, quand la lumière viendra, tu seras quitte. Il n'y aura pas de problème chez toi. La vérité finit toujours par triompher. Peu importe là où on peut nous traîner dans ce monde ici. Mais si nous sommes du côté de la vérité, nous triompherons toujours. La sixième chose, c'est en trouvant notre joie et notre plaisir dans ce que Dieu dit. Votre joie et votre plaisir, vous les tirez d'où? Est-ce que vous les tirez de ce que Dieu dit? Septième chose, en réfléchissant aux fruits d'une vie qui se conforme aux voies de Dieu, par opposition à celle du monde. Chacun de nous ici peut-être travaille. Le fruit que vous avez, vous le trouvez par quelle voie? Cette maison que vous avez construite, est-ce que vous ne l'avez pas construite après un grand montant de la corruption? Ou du vol, du détournement, ou des tueries? Il y a des gens qui sont en train de construire des maisons parce qu'ils ont kidnappé. On kidnappe et on donne de l'argent. Et il va construire. Et toi maintenant, tu vas dire, Namie Ningekoua Sawaoui. Et tu ne sais pas l'origine. Non, lorsque vous êtes en Christ, vous marchez avec Christ pour que vous puissiez vous rassurer que réellement, je vais être vainqueur dans les difficultés de la vie. C'est très important que vous réfléchissiez aux fruits d'une vie qui se conforme aux voies de Dieu. Aux voies de Dieu. La dernière chose, c'est en évitant d'être très occupé pour lire la parole de Dieu. Est-ce que nous lisons la parole? Moi, je veux d'abord demander combien ont leur Bible ici. Bible écrite, pas à téléphone. Combien ils peuvent, vous pouvez exhiber ça? Vous exhibez les mains. Merci beaucoup. Mais nous sommes moins de 20%. Nous sommes moins de 20%. Nous devons éviter d'être très occupé pour lire la parole de Dieu. Pourquoi quand il s'agit d'un livre, d'un roman, nous pouvons faire toute une journée en train de lire? Mais quand il s'agit de la parole de Dieu qui nous donne la vie, nous n'avons même pas une minute. Trouvez le moment. Et l'Église vous a déjà donné un moment. Chaque mercredi ici, de 16h à 17h30, 1 heure, donc 90 minutes, vous vous asseyez là-bas, vous étudiez la parole. Si vous ne pouvez pas le faire seul, venez le faire avec d'autres là et vous allez voir que vous allez grandir spirituellement. Quelqu'un avait chanté, lis ta Bible, prie chaque jour et tu vas grandir. Et ça c'est vrai, ça c'est vrai. Essaye seulement, tu vas voir que ta foi va monter d'échelon. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que la parole de Dieu contient donc des principes spirituels qui nous aident à éviter les difficultés. Il y a des difficultés qui nous viennent parce que nous ne savons pas réellement ce que dit la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas les promesses de Dieu qui sont cachées dans la Bible. Et la difficulté arrive. Et nous pleurons du jour le jour pendant que la solution est déjà dans la Bible. Oui, nous sommes sujets à des difficultés, à des pièges, à des tragédies. Ils peuvent même venir de nos propres choix. Ou nous devenons malheureux seulement comme ça. Mais le Seigneur, il sait. Ça veut dire que nous devons chérir la sagesse de Dieu. Que nous allons trouver dans la Bible, dans ses préceptes que nous devons lire et qui vont nous accompagner dans toutes les circonstances de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu as compris ces choses ou ces attitudes dont nous venons de parler, pour que nous continuions à marcher victorieusement et en éliminant aussi certaines difficultés qui peuvent nous arriver dans la vie. La confiance aux Saintes Écritures, l'étude des Saintes Écritures, l'utilisation des Saintes Écritures, se réjouir des Saintes Écritures, obéir à Saintes Écritures. Et souvent, quand nous ne faisons pas ces choses, c'est la raison pour laquelle nous divisons la Bible en deux. Il y a là où nous allons dire Amen et là où nous n'allons pas dire Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est Amen partout, dans toutes les circonstances de la vie. Je vais te permettre que tu raisonnes un peu. Tu vas courber un peu ta tête. Que tu raisonnes. Le temps que tu utilises sur 24 heures, Tu as combien de minutes que tu donnes à Dieu? Sur les 24 heures que tu as combien de minutes que tu donnes à Dieu pour la lecture de sa parole? D'ailleurs, je ne peux même pas dire combien tu donnes à Dieu parce que c'est pour toi. C'est ton temps pour ton bien. Quand tu vas lire la parole de Dieu, c'est pour ton bien. En lisant la parole de Dieu, ça nous amène à monter de la foi. Et quand nous montons de la foi, d'autres difficultés qui devraient nous faire mal, nous allons constater que c'est même possible de marcher victorieusement contre ces difficultés-là. Ayant des moments, si tu vas sentir que pendant ton temps, les temps que Dieu te donne, 24 heures, tu n'as même pas une minute que tu donnes à Dieu pour la lecture de sa parole, il faut que tu prennes une décision ce soir. Il faut que tu prennes une décision ce soir afin que tu comprennes la parole de Dieu. Il est possible que tu aies confiance à la parole de Dieu, mais tu ne la lis pas. C'est possible que tu aies confiance, tu lis, mais tu ne l'utilises pas. C'est possible que tu aies confiance, tu lis, tu l'utilises, mais quelquefois tu ne te réjouis pas de cette parole-là. Ou bien tu fais tout ça, tu te réjouis, mais tu n'obéis pas. Ta vie, par rapport à la parole que tu as lue, à laquelle tu as confiance, mais tu n'obéis pas à cette parole-là. Donc ta vie est contraire à la parole que tu as lue et que même tu prêches. Ok, si fa wana poke si fa poke si fa wana poke si fa jina la litukuzwe Bwana pokea sifa pokea sifa pokea sifa Bwana pokea sifa jina lako jina lako litukuzwe Bwana pokea sifa. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Tu vas aussi prier. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour la relation que tu as avec Dieu. Applique-toi à la lecture de sa parole. C'est possible que tu traverses certaines difficultés parce que tu ne connais pas les promesses de Dieu dans la Bible. Dis au Seigneur de te donner de sa grâce. Prends aussi la décision de lire la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que tu viens de nous donner. Peut-être qu'elle est pleine d'imperfections parce qu'elle a été donnée par un homme humain, Seigneur. Toi qui es l'enseignant par excellence, je t'évoque dans les cœurs de chacun de nous. Nous qui sommes ici présents et tous ceux-là qui nous ont suivis en ligne, Seigneur, nous avons foi à ta parole. Et nous savons que tu ne nous abandonnes jamais. Du jour au lendemain, tu es toujours là. Aide-nous. Accompagne-nous. Car avons besoin de toi. Tu connais mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, l'enfant, tout le monde qui est ici. Tu connais ce qui se passe dans les cœurs de chacun maintenant par rapport à cette parole. Tu connais là où nous nous accusons. Et peut-être tu t'étonnes quand nous venons devant de toi pour te demander ceci ou cela parce que nous nous sentons persécutés. Et toi tu t'étonnes parce que tu sais que ça c'est déjà à un acquis. Et pour le trouver, il faut qu'on lise ta parole. Seigneur, donne-nous ce courage d'aimer ta parole, de nous réjouir de ta parole. Ta parole en entièreté, Seigneur. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur nous bénisse tous, amen. Demain, nous allons parler du titre intitulé « Dieu vous a devancé dans la fournaise ardente ». La fournaise est là, mais sachez que le Seigneur vous y a devancé.